Le passage que nous allons commenter se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 18. En voici la lecture. Ne possédant que l'esquisse des biens à venir et non l'expression même des réalités, la loi est à jamais incapable, malgré les sacrifices, toujours les mêmes, offerts chaque année indéfiniment, de mener à l'accomplissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir, pour la simple raison que purifier une bonne foi, ceux qui rendent ainsi leur culte n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, par ces sacrifices, on remet les péchés en mémoire chaque année. Car il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « De sacrifices et d'offrandes tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifices pour le péché ne t'ont pas plu. » Alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre, « Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. » Il déclare tout d'abord, « Sacrifice, offrande, holocauste, sacrifice pour le péché, tu n'en as pas voulu, ils ne t'ont pas plu. » Il s'agit là, notons-le, des offrandes prescrites par la loi. Il dit alors, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Il supprime le premier culte pour établir le second. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ceux qu'il sanctifie. C'est ce que l'Esprit-Saint nous atteste lui aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec eux » après ces jours-là, le Seigneur a déclaré « En donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai, et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. » Or là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. Alors ce texte, donc l'Épître aux Hébreux, est une épître très originale, probablement rédigée non pas par Paul lui-même, comme on l'a longtemps cru, mais par un disciple de Paul, et comme son nom l'indique, il s'adresse aux Hébreux, à des judéo-chrétiens, des juifs, ce qui explique, disons, que l'on met toujours en parallèle dans cette épître l'ancien culte, l'Ancien Testament, si vous voulez, notamment le Pentateuch, où on parle de sacrifices, etc., d'animaux, et le sacrifice plein et entier de Jésus. Alors, je vous conseille d'ailleurs, quand vous aurez fini ce commentaire, d'aller consulter le commentaire sur le premier chapitre de l'Ecclésiaste, parce que ces deux textes s'éclairent singulièrement. Alors, commençons donc ce petit commentaire en ayant toujours à l'esprit ces clés de lecture que sont la lecture spirituelle, et notamment la lecture anagogique et tropologique. Et bien, évidemment aussi allégorique avec le Christ en son centre. Anagogique veut dire vraiment voir des réalités mystérieuses, c'est-à-dire invisibles derrière ce qui est visible, c'est-à-dire souvent les fins dernières, la mort, etc., le monde invisible, et tropologique, c'est-à-dire vraiment ce qui se passe en notre âme, et dans notre vie quotidienne, et comment on peut mettre en application ce que nous dit la parole dans notre vie quotidienne, à commencer par ce qui se passe dans notre cœur. Alors, commençons si vous voulez bien. Ne possédant que l'esquisse des biens à venir, et non l'expression même des réalités, la loi est à jamais incapable, malgré les sacrifices, toujours les mêmes, offerts chaque année indéfiniment, de mener à l'accomplissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir pour la simple raison que purifier une bonne foi, ceux qui rendent ainsi leur culte, n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, par ces sacrifices, on remet les péchés en mémoire chaque année. Ah, ce raisonnement est imparable. Parce que ici, l'auteur nous dit, tout simplement, que ce qui prouve qu'une religion ou qu'un mode de fonctionnement n'est pas le bon, c'est qu'il ne nous satisfait pas. Eh bien, si la foi chrétienne ne nous satisfait pas, est-ce que vraiment nous savons ce qu'est la foi chrétienne? Parce que si pour nous la foi chrétienne équivaut à offrir des sacrifices, c'est-à-dire par nos efforts gagner notre paradis, gagner les faveurs de Dieu, ce qui est très païen, parce que les païens, notamment dans les cultes anciens, ils cherchaient la faveur de la divinité en lui offrant des cadeaux, de la nourriture, etc. Si notre vie, nos bonnes œuvres Nous essayons d'être parfaits par nous-mêmes, par nos propres efforts. Nous essayons de gagner les faveurs de Dieu. Ce n'est pas étonnant que nous sommes souvent déçus et que nous n'avons pas la paix dans notre cœur. C'est que nous ne pratiquons pas, nous ne sommes pas chrétiens en profondeur. De même, vous savez, ici on parle de méthodes répétitives, de sacrifices pour arriver à son salut, si vous voulez. Eh bien, je ne peux pas empêcher de penser à ce monde actuel, et parfois nous-mêmes, où nous avons soif de bonheur, et comment voulons-nous être heureux? Eh bien, c'est par des petits bonheurs qui sont bien en tant que tels, mais quand ils sont symboles de notre quête unique du bonheur, alors ce sont que des idoles. Vous avez déjà remarqué aussi, les gens, quand ils sont malheureux ou ce monde, ils vont d'idole en idole. Ils se disent telle ou telle personne en droit heureux. Hein, quand on vote, c'est pareil. On vote pour tel ou tel candidat pensant que c'est le Messie. De même, on va d'activité en activité, de truc en truc, et puis chaque fois, eh bien, ça ne nous satisfait pas. La seule manière, nous répond la parole de Dieu, d'être pleinement heureux, eh bien, c'est de trouver ce qui peut nous purifier une bonne fois pour toutes. Donc là, j'en viens aussi à montrer, enfin, à cette réalité qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter. Donc il y a les petits bonheurs, il y a nos idoles, il y a nos propres efforts qui ne doivent pas servir comme moyen d'avoir les faveurs de Dieu, parce qu'autrement, l'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu est gratuit et nos efforts ne sont là que comme une réponse, une authentification de notre gratitude envers Dieu. C'est totalement différent. Parce que dans la première épître de Jean au chapitre 2, je vous conseille sa relecture, Jean nous dit que si nous péchons, bien que nous ne devrions pas le faire, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ. Et c'est là toute la clé de la vie chrétienne. Si nos efforts sont comme un amoureux, quand on aime quelqu'un, on se laisse transformer par sa présence, par ce qu'il est. Et c'est assez naturel. Eh bien, si nous aimons Dieu, si nous le fréquentons, le fréquenter, si nous le fréquentons, pardon, et par la prière, la lecture de sa parole dans un esprit de prière, si nous avons les yeux toujours levés vers lui et non pas vers nos petites idoles ou nos petits, ce que nous propose le monde actuel exclusivement, eh bien, nous allons découvrir un ami et donc susceptible de pardonner et donc bien loin de nous décourager, eh bien, chaque fois que nous tomberons, eh bien, nous savons que par Jésus-Christ, Dieu nous montre qu'il nous aime et qu'il nous relève. Et nous serons encore bien plus désireux de lui plaire. C'est ça vraiment le fondement de la foi chrétienne. Le christianisme, j'aime pas ce mot-là, mais enfin la foi chrétienne, disons, c'est l'inverse de toutes les autres religions. Et c'est là-dessus que je voulais en venir, cette réalité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le bouddhisme et l'hindouisme, mais c'est affligeant de paganisme, notamment l'hindouisme. On cherche les faveurs des divinités exactement comme dans l'Empire romain et comme dans les religions primitives, comme si une divinité pouvait se laisser convaincre, etc., par de la nourriture, ou etc. Mais c'est ce que nous faisons quand nous voulons avoir les faveurs de Dieu par nos œuvres, gagner son paradis. De même, le bouddhisme, c'est par ses propres efforts que nous arriverons automatiquement, mais alors il faut du temps, plusieurs vies, à nous en sortir nous-mêmes. Mais alors, quelle désespérance! Eh bien, la foi chrétienne, c'est tout à fait l'inverse. C'est une réponse au geste d'amour premier de Dieu, pleinement manifesté sur la croix. C'est tout le thème de la Bible entière qui est l'alliance. L'alliance comme deux amoureux, où Dieu fait le premier pas. Et voilà où je veux en venir. Toutes les religions ne se valent pas. Je le répète souvent, mais quelle tristesse de passer par-dessus le Christ pour penser que tous nous avons le même Dieu, etc. Parce que dans ce cas-là, eh bien, regardez les autres religions, examinez. Pareil dans l'islam, on essaye d'être bon par soi-même, ne sachant même pas si Dieu nous pardonnera. Tellement il est élevé et ses voies sont inconnues. Mais s'il y a de quoi désespérer. D'ailleurs, l'islam en est à une telle contradiction que le Coran nous dit que nous devons faire de bonnes œuvres et que nous pouvons par nous-mêmes nous améliorer, sans parler de l'aide de Dieu. En niant le péché originel, mais ça n'a pas de sens. Le péché originel, nous en faisons toujours la triste expérience, à l'image de saint Paul, Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Mais heureusement, voilà toute la foi chrétienne, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, c'est vraiment la, j'allais dire matérialisation, plutôt l'incarnation de l'amour de Dieu qui se fait premier, qui se fait homme pour nous tirer de nos morts, comme le dit la première épître de Saint Pierre au chapitre 3. Alors, donc, si je résume, la foi chrétienne, c'est d'abord une relation personnelle avec Dieu. Et c'est en réponse à l'amour de Dieu que nous changeons, parce que nous laissons transformer par un être vivant qu'est le Seigneur. C'est ça tout le secret de Jésus-Christ. C'est la foi que Jésus nous apporte. Il nous apporte le Père. Il nous apporte la relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que dans aucune autre religion, vous avez cette insistance sur la relation personnelle avec Dieu. Et de même, ne possédant que l'esquisse des bienvenirs et non l'expression et des réalités, la loi est à jamais incapable, etc., etc. La loi ici, c'est aussi notre vie, ce monde visible, qui n'est qu'une esquisse des bienvenirs. Il faut apprendre à vivre dans l'invisible. Il faut apprendre que ce qui conditionne nos victoires, notre bonheur, c'est la prière, la lecture de la parole dans un esprit de prière, notre relation avec Dieu. Et la vie visible dépend de cette relation, et non pas l'inverse. Si nous engluons dans ce monde quotidien, nous perdons de vue le monde invisible, le monde de Dieu, nous perdons Dieu lui-même de vue, et alors, eh bien, notre foi va s'affadir. Alors, continuons. Car il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, de sacrifice et d'offrande tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifices pour le péché ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il déclare tout d'abord, sacrifice, offrande, holocauste, sacrifice pour le péché, tu n'en as pas voulu, ils ne t'ont pas plu. Il s'agit là, notons-le, des offrandes prescrites par la loi. Il dit alors, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Alors ici, l'auteur cite le psaume 40. Et il met ces paroles du psaume 40 dans la bouche du Christ. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette phrase, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Ici, si vous voulez, ça représente un petit peu dans l'Ancienne Alliance, toujours ce geste que fait l'homme pour se purifier sans fin et sans fin, ça ne marche pas. C'est un peu nos œuvres. Nos œuvres faites non pas comme une réponse d'amour et de gratitude envers Dieu, sachant que de toute façon, elles ne nous voudront rien, mais on veut simplement plaire à notre bien-aimé. Mais ce sont les œuvres faites comme pour gagner notre paradis. Eh bien, c'est dans ce cas-là, c'est qui voit du sang de taureau et de bouc, et ça n'enlèvera pas nos péchés, parce que nous serons découragés, parce que nous n'arriverons jamais à la perfection, et nous ne mériterons jamais l'amour de Dieu, et ça va se manifester par un vide dans notre cœur, une soif jamais comblée. Ensuite, ce sang et ce bouc de taureau, c'est toutes, comme j'ai dit tout à l'heure, nos petites activités, nos petits bonheurs que nous mettons à la place de Dieu comme étant les sources possibles de notre bonheur avec un grand B. Eh bien, tant que nous en serons à ce point-là, eh bien, notre péché, c'est-à-dire notre malheur aussi, ne sera pas enlevé. Alors, la réponse, elle vient, ben, c'est l'attitude du Christ, voyez. Le Christ, qu'est-ce qu'il fait dans ce psaume? Eh bien, il se pose comme celui qui accepte la relation personnelle avec Dieu. Sacrifice holocauste n'a pas voulu, alors me voici, car c'est bien de moi qui est écrit dans le rouleau, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qu'est-ce que fait ici le Christ? Il se met face à Dieu avec tout ce qu'il est, et il fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire il se laisse aimer, influencer, si j'ose dire, par Dieu. C'est tout le comportement du Fils dans la Trinité. Comment dire? C'est quelque chose d'assez complexe, mais de tellement vrai. Nous pouvons approcher ce mystère. La Trinité ne peut pas s'expliquer, mais elle peut quand même s'approcher et nous nourrir. Parce que dans la Trinité, le Père, si vous voulez, aime. Et aimer pour le Père, c'est se donner, c'est tendre la main, c'est aller vers un autre que lui-même, si j'ose dire. Eh bien, cet amour, le Père qui, comment dire, comme sort de lui-même, eh bien, cet amour ne pouvait être que une personne. Parce que le Père, quand il aime, il aime d'une manière personnelle et donc il aime aussi avec la liberté. Et cet amour personnel que Dieu, que le Père manifeste, c'est l'engendrement de son Fils de toute éternité, ce Fils qui est forcément une personne, parce que l'amour de Dieu est personnel, et ce Fils est libre de dire oui ou non, et ce Fils de toute éternité dit oui à la volonté du Père. Il se laisse aimer pour l'aimer en retour. Eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, par l'exemple du Christ, nous sommes appelés à remplir, si j'ose dire, le rôle de la deuxième personne de la Trinité, se laisser aimer par le Père pour l'aimer en retour. Et bien sûr, nous sommes appelés à faire ça en Jésus-Christ, avec son aide. Quelle merveille ! Nous sommes appelés à vivre de l'amour de la Trinité. Nous rentrons en plein cœur de la Trinité à l'image de Jésus qui, en ressuscitant, a fait rentrer la chair, l'homme, dans la Trinité. Nous sommes appelés à vivre de cette relation face à face avec Dieu. Et cette relation juste, c'est celle que Jésus nous apprend par le psaume 40. « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » C'est donc d'abord se laisser aimer par Dieu pour l'aimer en retour. Et non pas vouloir l'aimer en premier par nos œuvres, etc., ou en voulant gagner ses faveurs, parce que c'est immérité. Apprenons de Jésus à vraiment aimer le Père, eh bien, comme le Père veut être aimé, c'est-à-dire nous aimer, nous combler de sa grâce, pour après l'aimer d'un cœur débordant. C'est ça le nœud de la foi chrétienne, vous comprenez ? Et comment arriver à cette relation juste avec le Père en ayant une relation suivie avec le Fils, bien sûr, car nous ne pouvons aimer le Père que si nous sommes à l'image du Fils. Donc la foi chrétienne, c'est une relation personnelle avec le Fils qui nous ouvre la relation personnelle avec le Père. C'est ce que nous dit d'ailleurs la parole dans l'évangile de Jean, où Jésus parle du Père et de lui-même le Fils qui viendront faire leur maison dans notre cœur. Continuons. Il supprime donc Jésus le premier culte pour établir le second. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Ça complète ce que je viens de dire. Donc, c'est dans cette volonté de Jésus, c'est dans cette acceptation de Jésus de se laisser aimer par le Père et de l'aimer en retour, que nous-mêmes, nous trouvons sens, que notre vie trouve sens, parce que nous sommes appelés à vivre de la même vie. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Parce que c'est comme ça que nous devons vivre, c'est comme ça que notre vie prend un sens. Et notons que le texte nous dit, donc, l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la pleine manifestation de l'amour de Jésus pour son Père, donc c'est de faire sa volonté, c'est de l'aimer en retour. Donc en Dieu, quand l'épître de Jean dit que Dieu est amour, c'est aussi Dieu est amour en lui-même, il est communion. Celui qui aime et celui qui se laisse aimer et qu'il aime en retour, eh bien cet amour est tellement vivant qu'il est esprit, Esprit Saint, donc cet amour personnel, cette communion qui est une personne, l'Esprit Saint, eh bien Dieu est amour. Eh bien cet amour donc de Jésus pour le Père, donc cet amour en retour, un peu à l'image de la femme et de l'homme, dans le couple c'est bien ce qui se passe, cet amour j'aime et tu m'aimes en retour, eh bien cet amour du Fils trouve sa pleine glorification, c'est ce que dit beaucoup Jésus dans l'évangile de Jean. La mort sur la croix est vue comme sa glorification. Eh bien, la pleine glorification de l'amour de Jésus pour le Père, eh bien, c'est son acceptation de s'incarner pour amener les êtres humains à cette relation personnelle avec Dieu, vécue comme lui, Jésus, le vit de toute éternité. C'est ce que dit le texte. Donc, c'est dans cette volonté, c'est dans ce oui de Dieu, ce oui de Jésus, de celui de Dieu aussi, Dieu le Fils, que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Jésus, en s'incarnant, a été la pleine manifestation de l'amour de Dieu pour nous, définitive. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est tellement fort qu'il n'a pas besoin de s'y reprendre à deux fois pour nous aimer. C'est une manière de dire, hein, c'est-à-dire une fois pour toutes, c'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes aimés, n'ont pas été aimés qu'à la croix, puis c'est tout. Cet amour se prolonge, c'est ce que veut dire d'ailleurs le sacrifice eucharistique. Cet amour se prolonge. Mais cet amour, disons, est plein et entier. On ne peut pas faire mieux que que l'amour que Dieu, le Père, nous montre en son Fils, qui s'est pleinement manifesté sur la croix, où Jésus a assumé toutes nos erreurs, toutes nos souffrances, toutes nos révoltes, et ça l'a conduit à la mort. Pour vraiment, il a pris tout ça sur lui, pour justement, un peu comme nous, des fois, partageons les souffrances de nos frères, pour leur offrir notre amitié, eh bien Jésus, il a partagé tellement nos souffrances et notre haine finalement, etc., que ça l'a fait mourir. Mais comme nous, dans nos amitiés, nous essayons vraiment de un peu sauver nos frères en leur tendant la main, Eh bien, lui nous a sauvés en nous tendant la main au cœur de cette révolte, de cette souffrance, de tout ce qui nous fait mal et de tout ce qui nous enlaidit. Eh bien, cet amour s'est manifesté une fois pour toutes pleinement à la croix, mais de cet amour nous vivons, de cet amour nous vivons encore. C'est ce que dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux dans d'autres chapitres, où on parle de Jésus qui intercède pour nous encore maintenant. Donc Jésus nous aime encore de la même intensité maintenant. Cet amour, en fait, quand on dit une fois pour toutes, cela veut dire non pas c'est pas temporel, mais c'est en termes d'intensité. Dieu nous a aimés pleinement, il ne peut pas nous aimer mieux que ce qu'il a fait en son Fils. C'est l'amour parfait qu'il nous donne, cette main tendue, cet amour qui partage notre condition pour vraiment nous relever. Voilà, c'est dans cette volonté que nous sommes sauvés. Et c'est aussi donc le premier culte, donc c'est-à-dire il faut vraiment apprendre à vivre différemment. Notre foi n'est pas des rites, ce ne sont pas d'abord des rites, des œuvres, mais c'est d'abord une relation personnelle avec Jésus, et en Jésus apprendre à nous laisser aimer par Dieu pour l'aimer en retour. Et si nous faisons ça, alors nous serons dans le second culte et non plus dans le premier. Pensez-vous que votre foi, c'est vraiment ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord aimer ses frères, alors que l'amour des frères n'est qu'une conséquence de notre relation personnelle à Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord aimer ses frères pour faire plaisir à Dieu, pour gagner son paradis? Est-ce que vous pensez qu'il faut tel ou tel rite, il faut telle ou telle chose, que la messe de dimanche est suffisante pour obtenir votre salut? Alors vous êtes bien loin de ce qu'est le second culte, c'est-à-dire de la relation personnelle et vivante avec Dieu en Jésus-Christ. Il est donc, je vous suggère vraiment de vous rapprocher de Dieu par Jésus-Christ, par une vie de prière plus forte, par une lecture de la parole plus régulière et plus priante. Donc continuons si vous voulez bien. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. Alors, déjà remarquez ces prêtres qui ne cessent d'offrir toujours les mêmes sacrifices, eh bien notre péché nous met toujours les mêmes erreurs. Si vraiment nous cherchons à nous justifier par nous-mêmes, eh bien nous serons comme Paul dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, verset 24, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui mène à la mort, si vous voulez, ce corps de mort ?» Eh bien, il faut vraiment apprendre à nous libérer de cette pensée, de cette façon d'agir, qui veut que, comme le grand prêtre, nous retournons toujours, nous voulons toujours par nos propres forces, par la force du poignet, nous sauver, plaire à Dieu. L'amour de Dieu est immérité. Et puis, arrêtons aussi, un petit peu comme c'est toujours fréquemment les mêmes sacrifices, de toujours vouloir chercher notre bonheur en dehors de Dieu. Dieu seul nous amène le bonheur. Et parce que nous vivons en Dieu, alors les bonheurs, les petits bonheurs, parfois les malheurs dans notre vie, les circonstances extérieures, eh bien, tout contribuera, comme le dit l'Épître aux Romains chapitre 8, Paul, tout contribuera au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord nous laisser régénérer, naître de nouveau, comme le dit Jésus au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il faut savoir nous laisser régénérer par notre relation à Dieu, comme nous-mêmes nous sommes régénérés un peu, nous sommes transformés par un amour quand nous aimons quelqu'un. Nous ne pouvons pas ne pas nous laisser influencer. Eh bien, ayons cette même intensité d'amour avec Dieu. C'est tout le sens du cantique des cantiques d'ailleurs. Alors nous serons régénérés, nés de nouveau. Et alors, notre vie prendra un relief différent, parce que nous comprendrons que cette vie n'a de relief que dans la mesure où elle nous prépare à l'autre, l'autre qui est la pleine communion avec Dieu et en Dieu avec nos frères. Eh bien, nous devons vraiment concevoir notre vie de cette manière. Et autrement, nous sommes toujours enfermés dans cette espèce de cercle dont la réincarnation, d'ailleurs, est la pleine manifestation de désespérance. Je n'ai jamais compris comment on pouvait croire en ça. C'est-à-dire toujours ce cercle infernal et dont on veut sortir, toujours par nos propres moyens, essayer sur plusieurs vies de gagner son paradis. Mais la foi chrétienne n'est pas ça. La foi chrétienne, c'est vraiment cette relation, comme l'a été exprimé dans le psaume, « Je suis venu pour faire ta volonté, me voici devant toi ». Alors, c'est cette relation, c'est Jésus, Donc c'est cet amour de Dieu pour nous manifestant Jésus, par cette relation personnelle que le Père nous demande d'avoir avec son Fils et par son Fils avec lui, eh bien nous sommes comme régénérés et alors cette offrande unique, cet amour de Dieu, plein et entier manifestant son Fils, eh bien nous va nous mener pour toujours à l'accomplissement de notre sanctification. C'est-à-dire que nos progrès ne seront pas le résultat de notre volonté, mais de notre relation aimante avec Jésus, nous laissant transformer par lui, par son amour, par son pardon, comme le dira plus tard l'Épître. Mais ce n'est pas parce que nous avons une relation personnelle avec Jésus que tout d'un coup notre vie va être comme en paradis. Nous sommes dans ce monde. Et alors, regardez, Jésus, certes, a gagné la victoire, mais qu'est-ce que nous dit l'Épître? Eh bien, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'amour plein et entier de son sacrifice, l'intensité de son amour qui s'est pleinement manifestée sur la croix, c'est pas la peine de chercher autre chose. Tu veux connaître Dieu, tu veux savoir qui il est, regarde Jésus. Tu veux savoir combien il t'aime, regarde la croix. Eh bien, donc après ce sacrifice, eh bien Jésus va siéger à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. C'est-à-dire que la victoire nous est obtenue, l'amour de Dieu nous transforme, mais c'est ça le grand secret. C'est parce que comme Dieu nous aime pleinement son Fils, et que cet amour s'est manifesté sur une croix, et non pas par, Jésus qui nous force victorieusement, etc., comme un dictateur à croire au Père, c'est sur la croix. Eh bien, ça veut dire que l'amour de Dieu, il est patience, et qu'il tient compte de nos réticences et de celles de nos frères. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir accepter d'être patient. Eh bien, c'est une grande leçon. Comme Jésus, asseyons-nous à la droite de Dieu et soyons patients pour que la pleine victoire se manifeste. Tu as des défauts, tu pries, parce que ça c'est aussi un symbole ici, hein, cette attitude de Jésus qui est assis à la droite de Dieu, c'est un appel à la prière. Tu pries, tu voudrais t'exaucer tout de suite et puis ça ne vient pas. Mais Dieu travaille, tu es exaucé dès maintenant, mais comme Dieu respecte ta liberté, celle de tes frères, eh bien il faudra du temps. Eh bien, apprends à siéger à la droite de Dieu. Apprends dans tes efforts à non pas croire que c'est ça qui va faire que tu progresses. Autrement, à chaque fois que tu chutes, ça va être terrible. Mais apprends vraiment que tes efforts et même tes chutes, dans le sens que par rapport aux prières que tu fais, que tes efforts, que ton désir, eh bien, la prière fait son chemin. La grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ en nos cœurs, ça c'est l'interprétation anthropologique. Jésus-Christ a gagné donc de travailler en ton cœur, c'est ce qu'on appelle la grâce. Jésus, par ta prière, eh bien, travaille en ton cœur, mais il faut du temps parce que c'est en respectant ta liberté qu'il veut te transformer pour que le jour où vraiment tu seras mûr, pour aussi par tes efforts qui seront motivés, nourris, soutenus par la prière, eh bien, le jour où tu vas vaincre ton péché, ça sera vraiment en pleine conscience. Ça sera vraiment le résultat de ton oui à Dieu, pleinement libre. C'est pour ça qu'il faut du temps, de même quand nous prions pour nos frères. Dieu respecte leur réticence. Alors, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, en chacun de nous, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Donc, chaque personne a déjà une petite bougie en lui. Donc, nous pouvons prier, nous ne violons pas la liberté de nos frères. Mais il faut tellement de temps parfois, à l'image de Monique qui a prié 40 ans pour son fils, Saint-Augustin. Mais quel résultat! Quand nous prions, et notre prière, Dieu nous demande de l'accompagner par notre charité, qui est une mise en acte de notre prière. C'est un acte de foi, parce que quand nous aimons même ceux qui ne nous aiment pas, ou quand nous aimons ceux pour qui nous prions, malgré le peu de résultats qu'en apparence il y a dans l'immédiat, eh bien c'est un acte de foi, et la foi et la charité vont ensemble. C'est ce que la première épître de Jean nous dit au chapitre 5. Nous avons vaincu le monde par notre foi. Et après, il parle de respecter les commandements de Dieu et d'aimer. Eh bien, notre foi nous aide à mieux aimer. Parce que si nous avons la foi, alors nous savons aimer dans le temps, avec pardon et patience. Parce que nous savons, comme Jésus, que nous sommes assis à la droite de Dieu. Et alors, nous nous aimons nous-mêmes, comme je viens de dire tout à l'heure, en ne désespérant pas parfois de nos chutes. Mais nous aimons aussi les autres parce que nous apprenons à être patients, parce que nous savons que la victoire est acquise. Ce n'est qu'une question de temps. À la mesure de la liberté que Dieu respecte dans le cœur de nos frères. Mais, comment dire, la grâce de Dieu travaille dans le cœur de nos frères, pour ceux pour qui nous prions et nous aimons, comme étant une authentification de notre foi dans l'exaucement de nos prières, notre amour. Eh bien, c'est cet amour que nous avons et cette prière, etc. Donc, que notre amour, que nos prières soient aussi aimantes. Eh bien, c'est comme s'il s'asseyait à la droite de Dieu et on attend que les ennemis en soient réduits à servir de marchepied à la grâce de Jésus qui finira par triompher. Êtes-vous convaincu que quand vous priez pour quelqu'un, si vous le faites avec foi, cela se manifestera donc par votre patience et votre indulgence vis-à-vis de cette personne, parce que vous savez qu'elle n'est pas elle-même et qu'elle finira par rencontrer Dieu. Eh bien, êtes-vous convaincu qu'effectivement, Jésus, donc, par son sacrifice, par son offrande, a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie, c'est-à-dire les personnes pour qui vous priez. Alors, redoublez de prières, d'intensité dans votre intercession, pour vous-même et pour vos frères et pour ce monde, et que cette prière soit tellement nourri de la certitude que Dieu aime et qu'il travaille et que Jésus a obtenu la pleine victoire sur la croix, et bien que ça se manifeste par votre pardon, votre indulgence, votre amour pour ceux pour qui vous priez et aussi pour vous-même. Aime ton prochain comme toi-même, s'aimer soi-même et aimer son prochain. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste, nous dit le texte, lui aussi. D'ailleurs, êtes-vous conscient donc, parce qu'après le texte va citer la parole de Dieu, que l'Esprit Saint est celui qui a inspiré la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu d'une manière spirituelle et cela ne peut se faire que dans la prière. Parce que lire la Bible sans un esprit de prière, eh bien, alors nous nous rendrons vite compte que dans la Bible, il ne faut pas le nier. Il y a des contradictions, parfois apparentes, mais parfois elles sont réelles. C'est sur des détails, des faits historiques. Parce que les évangélistes ou les auteurs n'étaient pas forcément des historiens. La Bible n'est pas un livre de science. Mais la Bible va prendre un sens si vous la lisez dans l'esprit. Car la Bible, elle est à l'image du Sauveur qui est mort sur une croix. C'est une parole qui ne s'impose pas. Elle ne devient force que si vous le voulez bien, en vous laissant inspirer par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit lui aussi atteste, donc, car c'est ce qu'atteste l'Esprit Saint. Car après avoir dit, et c'est Jérémie 31 qui nous est cité ici, « Voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec eux après ces jours-là. Le Seigneur a déclaré en donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai, et de leurs péchés, de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Or là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. » Êtes-vous convaincu que la foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu, où la juste mesure, c'est de nous laisser aimer par Dieu, à l'image de Jésus qui se laisse aimer par le Père. Mais comme nous sommes pécheurs, ce qui n'est pas le cas de Jésus, eh bien se laisser aimer par Dieu, c'est d'abord se laisser pardonner par lui. Vous voyez, nous avons tendance, par notre orgueil, à vouloir nous pardonner nous-mêmes, en faisant des belles choses, des bonnes choses pour Dieu. Comme ça, il nous pardonne, nous sommes à la hauteur. Non, Dieu aime les humbles, c'est ce que dit Marie dans son Magnificat, Luc chapitre 2. Oui, je crois que c'est Luc chapitre 2, effectivement. Eh bien, nous devons nous laisser pardonner. Approchons-nous de Dieu en nous laissant aimer par lui, et alors, lui va nous qualifier, c'est ce que nous dit l'Épître, hein. Jésus va nous mener à notre accomplissement, il va nous sanctifier. C'est comme ça que ça marche. La juste mesure, c'est de se laisser pardonner par Dieu. Il faut être humble, parce qu'il faut accepter d'être dépendant d'un autre, fût-il Dieu. Et c'est pas évident. Nous-mêmes, quand nous voulons aimer, nous voulons davantage donner que recevoir. Eh bien, il faut de Jésus apprendre à se laisser d'abord aimer et pardonner par Dieu. Et alors, comment dire, nous aurons cette satisfaction dans notre cœur et nous n'aurons plus envie d'offrande pour le péché, c'est-à-dire que nous n'aurons plus envie de nous justifier par rapport à Dieu. Cette course aux bonnes œuvres, qui sont nécessaires, mais je le dis comme authentification de notre foi, comme étant le débordement de joie que nous avons notre relation avec Dieu, et non pas comme moyen d'escalader à la manière des bouddhistes les différentes échelles qui nous mèneront à un pseudo-paradis. Non, ce n'est pas ça, parce que si Dieu était comme ça, alors il n'y a pas de Dieu. Dieu est un être vivant, et il nous pardonne. C'est vraiment ce qui nous montre qu'il est vivant. Il est vivant à la mesure de son pardon pour nous. Ne croyons-nous, parce que si nous voulons gagner notre propre paradis par nos œuvres, si nous voulons vraiment aller de petit bonheur en petit bonheur, oublions que le monde invisible, et la prière sont premiers, eh bien alors Dieu est mort, il est toujours dans le tombeau, il n'est pas ressuscité. Eh bien vraiment que cet épître nous apprenne que le vrai culte à Dieu, ce n'est pas comme dans les autres religions, ou comme parfois nous avons tendance à l'interpréter, gagner les faveurs de Dieu, les œuvres, etc., ou aller à la messe le dimanche, c'est important. Mais ça doit être fait dans un esprit, d'abord, de recevoir de Dieu et de lui donner ensuite en retour. Nous avons beaucoup à apprendre de Jésus, qui, lui, dans la Trinité, est cette personne qui se laisse aimer par Dieu et qui aime Dieu en retour. C'est cet amour de Dieu pleinement personnel et pleinement vécu dans la liberté. La liberté, l'amour personnel de Dieu est libre, c'est l'amour qui se laisse aimer et qui aime en retour. C'est le grand secret de la Trinité. Dieu est communion. Eh bien, si Dieu est communion, il est vivant. Et il nous appelle à cette communion vivante avec lui. Si vraiment, comme je me répète, mais c'est tellement important, si notre foi chrétienne n'est pas faite de cette communion avec Jésus le Père, alors elle est morte. Et donc, notre foi est bien vaine, comme le dit Paul. Voilà. Donc, j'espère que cette méditation donc vous a un petit peu aidé dans votre foi, dans votre recherche. Je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence. Vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Ô Seigneur, oui, apprends-nous vraiment, Jésus, à vivre notre foi de manière vivante. Apprends-nous à nous laisser aimer par le Père, pour nous pécheurs à nous laisser pardonner, à accepter d'être dépendants. Oui, apprends-nous à être assez humbles pour accepter d'être dépendants du Père, pour arriver à faire de bonnes œuvres. Oui, apprends-nous, Jésus, à nous laisser aimer par le Père. Apprends-nous que la clé vraiment de notre relation avec le Père, c'est l'humilité, nous laisser aimer par lui, à ton image. Oh oui, Père, nous nous approchons de toi. Par ton Fils, sanctifie-nous. Rends-nous capables d'aimer toujours davantage nos frères en augmentant notre foi en la puissance de la prière. Oui, en la puissance de ton amour qui n'est pas trop court. Ton bras qui n'est pas trop court pour sauver qui que ce soit, malgré les apparences, et que notre foi en la puissance de ton amour se manifeste par notre foi en l'exaucement de ta prière, et que cette foi se manifeste pleinement par notre patience et notre indulgence vis-à-vis de ceux pour qui nous prions, vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, Père, apprends-nous à nous laisser pardonner par toi quand nous chutons. Apprends-nous, au lieu de désespérer, à vraiment être plein de gratitude pour ta miséricorde et que ceci nous encourage à reprendre le chemin plutôt que de désespérer. C'est cela, se laisser pardonner et aimer par toi. Oui, c'est vraiment cela, se laisser s'aimer soi-même, comme le dit Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous prions pour nos frères qui sont loin de toi, pour tous ces gens parfois que nous croisons même dans les églises et qui n'ont pas compris que la foi c'était une relation vivante avec toi, ô Jésus, et avec le Père. Nous prions pour eux maintenant. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont loin de toi, qui parfois ont plein de préjugés, de fausses idées sur toi. Oui, vraiment, qu'ils te découvrent, qu'ils découvrent ce second culte. Oui, le centre de la foi chrétienne que tu es, Jésus. Qu'ils te connaissent toujours davantage, comme nous-mêmes nous voulons toujours te connaître davantage. Nous prions aussi pour les gens qui pratiquent d'autres religions et qui n'ont pas compris. Quand Jésus... C'est une main tendue que tu nous donnes, c'est un amour gratuit que tu nous proposes, c'est un miséricorde fait chair que tu nous envoies. Oh oui, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous aider à toujours lever les yeux, en voyant que ce monde n'est que l'esquisse des biens à venir, et que nous vivions toujours davantage mieux cette vie, en ayant les yeux fixés sur l'autre, qui est la vraie vie. Oh oui, par là, apprends-nous à avoir davantage de foi, de recul, qui se manifeste par davantage de patience et de charité. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement.